Canalem, on aime l'été.
Lundi 20 août, en compagnie de Kevin Breton, Maurice Bolduc, Luc Fortin avec vous. Et aujourd'hui, en plus d'en apprendre davantage sur certains territoires canadiens, on écoute ce qu'est de vivre au gré du vent et des flots, vous allez comprendre un peu plus tard. Christine revient sur les pensionnats autochtones et leurs conséquences tant au chapitre juridique qu'au chapitre humain. Après des violons sous les toits, du pesto sur le toit, et on parle télé.
Regarde ta montre, il est déjà 8 heures. Embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte, tu parmi ces milliers de gens. C'est une journée idéale pour marcher dans la forêt. On trouverait plus normal d'aller se coucher seul dans les quand on est derrière les carreaux, quand on travaille, que le ciel est beau, qu'il doit faire beau sur les routes, le lundi au soleil, le lundi au soleil. On pourrait le passer à s'aimer, le lundi au soleil, on serait
au soleil par Jérémy Kissling.
C'est drôle parce qu'il a tellement pas l'air d'un gars qui trippe au soleil. Jérémy Kissling, chaque fois qu'il lire le gars, mais c'est sympathique, il faut qu'il existe. Je veux juste remercier Catherine Bourderon et Anne-Laure Janson, les recherchistes, parce que souvent, à la fin de l'émission, ça va vite, puis en tout cas, moi, j'oublie de le dire. Merci beaucoup. Tout de suite, d'emblée,
c'est
une bonne
habitude qu'on pourrait prendre de remercier dès le début de l'émission les gens qui travaillent à la conception de celle-ci plutôt qu'attendre à la fin.
Tout à fait.
Donc, on va partir une tradition.
Les défis des tournages autour du handicap. Moi, c'est une réalité qui, sans dire m'obsède, me préoccupe beaucoup. Je voulais que l'on parle de ça aujourd'hui, sachant, Kevin, que tu passerais l'heure et demie avec moi et que, bon, toi aussi, t'es à la télé. Mm-hmm. Et, l'occasion était belle, puisque Louis Asselin, réalisateur, Mathieu Paiement, producteur au contenu, ont tous deux été des artisans qui ont pris part à la production du mensuel Sport sans limite que j'ai animé et qui se termine ce mois-ci sur Amitélé. Il était question de sport adapté et je me disais, ben pourquoi pas jaser à quatre de pourquoi n'y a-t-il pas davantage de bras manquants, de yeux croches, de jambes plus ou moins droites à l'écran. Messieurs, bonjour, merci beaucoup d'être là.
Merci de nous avoir invités, Luc.
D'abord, y a-t-il des défis particuliers entourant le handicap ou j'ai l'impression que c'est une peur avant même que vous commenciez là. Est-ce que vous aviez des appréhensions? Est-ce que...
Ben moi je peux parler pour le volet réalisation.
La voix plus grave c'est Louis pour les gens à la maison.
Dès le départ en abordant ce projet-là, puis c'est quelque chose dont j'avais discuté avec Mathieu, l'intention était de montrer d'abord et avant tout des gens qui font du sport. T'sais, le handicap, la situation de handicap fait partie de la réalité de ces personnes-là, mais c'était un élément parmi toutes les autres facettes de ce que c'est être un sportif. Fait que les défis particuliers de mon côté au niveau purement réalisation, c'était des défis propres à montrer toute forme de sport, c'est-à-dire ça bouge, ça se promène, c'est dur à tourner techniquement parce qu'il faut suivre ces gens-là. Puis j'avais vraiment envie de montrer ces sportifs-là, qu'ils soient de niveau amateur ouais. ou des paralympiens, avec la même intensité que n'importe quel sportif. C'était important pour moi qu'on sente la vitesse.
Un skieur debout ou un skieur sur luge, il faut le prendre dans le virage.
Oui.
De toute façon...
Techniquement, c'est difficile. Filmer du sport, tourner du sport, c'est difficile. C'était une difficulté. Maintenant, après ça, comme j'abordais chacun des athlètes, des sportifs, comme des athlètes et des sportifs avant tout, la situation d'handicap, pour moi, posait pas de difficultés particulières.
Aurais-tu dit l'expression « situation de handicap » avant l'an passé?
J'ai appris à l'intégrer façon fluide dans mon discours, mais j'ai toujours été sensible à la façon de nommer les choses, puis à la façon de désigner les gens. Puis c'est sûr que j'ai été plus familier avec cette expression-là en travaillant sur le projet Sport sans limite.
Mais félicitations. Mais pour bien comprendre, est-ce que toi, tu travaillais davantage sur le terrain quand il y avait des reportages à l'extérieur ou tu travaillais aussi dans le studio à Sport sans limite?
Je faisais la réalisation des deux portions, c'est-à-dire les topos qu'on appelle en VL, vidéo légère, où on allait à la rencontre des sportifs ou à différents événements et en studio quand on tournait au stade.
Parlant d'appréhension, c'était une appréhension qu'on avait par rapport au studio aussi que... On avait un animateur qui est une personne non-voyante. Et puis, on s'était dit, comment tu réalises, comment tu signifies à une personne non-voyante qui reste 5 secondes avant d'enchaîner. Puis, mais c'était une appréhension qui, finalement, on s'est juste ajusté tellement, je pense, rapidement que c'est devenu naturel pour nous, comme de dire une personne en situation de handicap assez rapidement. Moi, mon appréhension, c'était quelque chose au niveau du contenu. C'était une discussion qu'on avait eue avec Amitélé dès le départ parce qu'on avait, je pense que dans un brainstorm, on avait sorti l'idée que, où on avait écrit dans le pitch quelque chose comme cette personne-là réussit ces exploits-là malgré son handicap et on trouve ça inspirant. Puis il nous avait dit chez Ami, puis c'est des bonnes têtes, je pense... C'est peut-être pas ça le langage que vous devriez utiliser ou adopter pour aller toucher les gens que vous aurez à toucher à travers ce show-là. Puis moi, ça, c'était mon appréhension, c'était de viser comme à côté de la cible. Puis finalement, ça aussi, je pense qu'on s'est adapté assez vite. Comme dit Louis, on l'a présenté comme des sportifs. Il y avait deux aspects. Il y avait l'aspect sportif de haut niveau et on voulait souligner la qualité des performances, c'est tout. Et il y avait l'aspect pratique, puis on voulait donner des trucs aux gens, c'est tout. Donc, on s'est adapté très naturellement aussi à ça. Mais moi, avant le premier tournage, c'était ça mon appréhension.
Louis, Mathieu, bon, le fait que moi, j'utilisais des notes en braille, le fait qu'à certaines occasions, on a utilisé une personne pour interpréter en LSQ, j'essaie de penser à d'autres petites réalités là qui... peut-être une personne au niveau du visuel, quand t'es en fauteuil roulant, t'es un petit peu plus bas, donc ce genre de détails-là, est-ce que c'est quelque chose auquel on doit penser?
Ben oui, on doit y penser parce que faut mettre toutes les conditions en place pour que les invités qu'on reçoit soient le plus à l'aise possible, puis leur laisser la possibilité de venir nous raconter leur histoire, de venir nous nous parler des sujets qui les touchent. Mais il y a des caprices plus grands que ça en télévision. Je veux dire, il y a des gens qui ont des caprices beaucoup plus complexes à gérer que d'installer une petite plateforme pour que le fauteuil roulant d'un invité soit à la bonne hauteur ou que d'avoir une communication avec toi dans l'oreille par un petit écouteur discret plutôt que d'avoir des signaux d'un régisseur. Je veux dire, moi, j'aimais ça. Chuter des mots doux à l'oreille pendant les tournages, Luc. Donc, c'est des trucs, des considérations techniques qui font partie d'à peu près n'importe quel tournage, qui étaient différentes un petit peu dans le cas de ce projet-là. Mais
c'est vrai que c'est un langage qui n'est pas courant, celui d'utiliser, par exemple, un interprète en langue des signes. Nous, quand on le fait, il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui apprécient l'idée de mettre un macaron dans un coin inférieur de l'écran. La meilleure pratique, ce serait d'avoir une caméra toujours fixe sur l'interprète. Non seulement c'est des soucis techniques, comme tu disais, mais aussi esthétiquement, visuellement, est-ce que ça titille un peu l'œil soit du directeur photo ou du réalisateur quand on fait ça?
Tous les gens qui ont travaillé sur le projet, c'est des gens qui étaient très sensibilisés à trouver des solutions créatives qui vont rendre tout le monde heureux, mais composer avec les réalités des gens avec qui on travaille aussi. Fait que le directeur photo principal du projet, Mathieu Paradis, pour le nommer, il a fait un travail, je trouve, assez remarquable au niveau d'intégrer. Il a aussi fait le montage de la série. Donc, il avait toujours en tête de garder une esthétique visuelle intéressante pour les gens qui voient, mais aussi pour les gens qui ne voient pas, de garder toutes les informations nécessaires au niveau des bruits qu'on entend, des ambiances qu'on entend. Puis, dans les cas où on a fait quelques reportages ou qu'on a eu en studio un interprète en langue des signes du Québec, c'est important pour nous de ne pas couper, de le garder au complet en fait pendant tous ces moments où il interprète, puis de l'intégrer de façon la plus harmonieuse possible.
Il y a moyen de faire de quoi de pratique et esthétique.
Ouais, moi, j'ai envie de dire qu'il y a moyen de faire quelque chose en termes de diffusion télévisuelle, de payant, tu sais, parce que l'expressivité, je pense au judoka, Luc, tu te souviendras qu'on a reçu à la toute fin de la saison.
Stéphane Gignac, je crois.
Exactement.
Était d'une expressivité extraordinaire. Donc, son langage, on l'avait en double. On l'avait par son, on va dire, body language, puis on l'avait par son interprète. Et la complicité entre son interprète et lui était admirable en soi. Donc, pour moi, c'était bonifié, cette entrevue-là, par le simple fait qu'il y ait un interprète et qui nous parle en langue des signes.
Moi, je veux te dire qu'une chance que Martin était là, sinon j'aurais trouvé le temps long.
Ouais, votre personne aveugle.
J'ai besoin de vous demander, même si Maurice nous dit que le temps est fini, je pense qu'on passerait à côté si je vous demandais pas comment se fait-il qu'il n'y en a pas davantage de personnes en situation de handicap à la télé.
Moi, je réponds pas platement, mais je pense qu'il manque de monde ordinaire à la télé. Je pense qu'on met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance sur les personnalités. Et c'est quelque chose qui me chicote en termes plus généraux que y a-t-il assez de personnes en situation de handicap? Mm-hmm. C'est-à-dire, y a-t-il assez de personnes dont la pertinence est ailleurs que s'être mariée en fin de semaine ou je sais pas. T'sais, alors, c'est plus ça, moi. C'est pour ça qu'un show comme ce que Louis réalise, 24/7, pour moi, ça, c'est important que ça existe. Puis il devrait y en avoir plus. Et s'il y en avait plus, je pense qu'il y aurait une plus grande place aussi aux personnes en situation de handicap. Donc, c'est plus ça qui me paraît être un enjeu.
Sortir de la tyrannie du vedettariat.
Exactement.
Mm-hmm.
Oui. Je suis d'accord avec ça.
Bon,
juste ajouter peut-être aussi qu'effectivement, il y a aussi le nombre de ressources, le bassin de ressources employables de personnes handicapées. Parce que oui, on veut voir ces personnes-là dans les situations de tous les jours, mais quand question d'avoir une profession d'animateur ou de chroniqueur, ben souvent, il faut que ces personnes-là aient obtenu l'éducation ou la formation nécessaire. Puis quand les écoles ne sont pas accessibles ou n'ouvrent pas leurs portes aux personnes avec un handicap, ben à la base, c'est un problème, là.
Mathieu a mis la piste. Enfin, il parlait de la réalisation que Louis avait fait de Garde 24/7. C'est une des choses dont on voulait parler. On va faire une petite pause musicale et on revient avec Louis Asselin.
Je descends sur la plage. Le soleil tape sur mon dos. La mer est calme et bien sage. Le sable brûle ma peau. J'enlève mon chapeau de paille. Lunettes de soleil sur le nez. Il y a du monde en pagaille. Des serviettes roses et des beignets. Il fait chaud. Oh, oh, oh. À Monaco. Oh, oh. Sur la plage, fausse alerte, circuler, c'est bon. Réconfort, glace vanille fraise, biscuit qui croque entre mes dents. Petite fraîcheur à trois françaises. Je m'allonge, je me détends.
Il fait chaud.
Vous êtes toujours à Aime l'été sur Canal M avec Kevin Breton qui est tranquille, mais qui est juste le bon. C'est Kevin qui disait, oh, Luc, la première demi-heure, occupe-toi-en.
Ben, tu fais bien ça, Luc.
Ben, d'autant plus que tu écoutes un petit rhume, hein.
J'ai un petit rhume, tu penses? Oui, fais-moi pas de peur demain, okay. J'ai un autre tournage demain.
Louis Asselin est également réalisateur de la troisième et plus récente saison de cette série documentaire sur le quotidien des médecins en milieu hospitalier montréalais. Louis, tu as travaillé à Maisonneuve Rosemont pour la troisième saison. Mm-hmm. Tu avais vu les deux premières saisons, donc tu connaissais la charge émotive de te lancer dans un projet comme celui-là. Comment se prépare-t-on?
Oui, j'étais un fan des deux premières saisons, okay. En fait, on va le dire carrément. Comment se prépare-t-on? Ben, j'ai eu la chance de collaborer avec l'équipe qui était là en place depuis la première saison. Donc, la productrice au contenu Nadia Ruel, Paul-Maxime Corbin qui avait scénarisé les deux premières saisons et qui a co-réalisé avec moi la troisième. Donc, avec ces gens-là, on avait eu des rencontres préliminaires avant d'aller repérer à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, parce qu'en changeant d'hôpital pour cette troisième saison-là, les deux premières ayant été tournées à Charles-le-Moine, on devait partir un peu de la base avec tout notre casting de médecins et d'infirmiers et infirmières. Puis, ces journées d'observation-là me servaient un peu aussi ça me permettait de prendre le pouls un peu, en fait, de comment ça allait se passer au niveau des journées de tournage. Puis, ben évidemment, c'est un peu mon travail de garder une certaine sensibilité aux histoires que les médecins me racontaient, à ce que je les voyais, parce qu'on était vraiment dans leurs chaussures là, pendant les journées d'observation. Mais en même temps, il a fallu assez rapidement que je trouve des trucs pour ne pas trop être habité par les moments plus tristes, par les situations plus difficiles. Donc, c'est un peu en me collant sur le point de vue des médecins et des infirmiers.
Est-ce qu'il y a eu des membres de l'équipe pour qui c'était trop?
Non, en fait, je pense qu'il y a quand même une certaine... Quand on travaille, ben moi, je peux parler seulement de comment moi je le vois, mais quand je travaille, on dirait qu'il y a une petite distance qui se crée dans la mesure où, oui, il faut être touché par les histoires qu'on voit devant nos yeux, mais il faut... moi, je suis constamment en train de réfléchir de quelle façon je vais raconter ces histoires-là. Ouais. Donc, il y a comme une espèce de filtre qui embarque. Mais c'est vrai qu'après certaines journées, tant en repérage qu'en tournage, je suis revenu à la maison, puis j'étais dans une tristesse plus grande que d'habitude. Là, il faut que je porte cette histoire-là un peu pour pouvoir la raconter après.
Pour avoir fait plusieurs réunions de production avec toi, je me souviens de t'avoir entendu justement parler avec émotion, avec beaucoup d'éloges de certains reportages et certaines personnes que tu avais croisées, des situations pas mal moins... troublante et bouleversante que ce que tu as connu à l'hôpital. Alors, je peux m'imaginer comment... Ouf!
Oui, c'est sûr que c'est un quotidien assez particulier, là, de travailler dans un hôpital.
Est-ce que la saison 3, j'imagine chaque saison, on a quand même une idée de départ ou une intention différente? On ne veut pas remontrer la même chose?
En fait, c'est un des défis auxquels on s'est attaqué au début du développement et de la scénarisation pour la saison 3. Il y avait déjà 24 épisodes qui existaient, donc 2 fois 12 demi-heures, avec 24 thématiques de déjà traitées. L'idée, c'était en repérage puis en discussion avec nos protagonistes éventuels de cibler au moins 13 autres thématiques pour pouvoir faire nos épisodes de la saison 3.
Et là, c'était de doubler le contenu également.
Oui, en fait,
ça
c'est un mandat aussi que à la demande de Télé-Québec sur laquelle je me suis penché assez tôt dans le processus. Comment on passe d'une série qui fonctionne extrêmement bien en 24 minutes avec une intensité dramatique et émotive assez intense là, tout le long. Puis comment on fait des heures de télé avec ça sans que ce soit trop pour le spectateur tout en gardant une courbe dramatique intéressante. Fait que c'est tout ça à quoi on pensait au moment de nos rencontres avec les protagonistes. Puis les thématiques qu'on a choisies découlent de l'observation qu'on a faite avec eux. C'est-à-dire que c'est en les regardant travailler, en discutant avec eux de ce qui les préoccupe, puis qu'on a déterminé, OK, on aimerait faire une émission sur la vitesse à laquelle tout ça se passe, on aimerait traiter des limites de la pratique médicale, on aimerait traiter toutes les thématiques, finalement, sont apparues comme ça.
Je me suis demandé s'il y aurait, disons, certaines choses cachées. Premier épisode de la saison 3, il y a quelqu'un qui meurt. Alors, je me suis dit, OK, on s'attelle pour la vérité. Comment choisir ce qui passe et ce qui ne passe pas à l'écran?
C'est vraiment en se basant sur ce qui se passe pour vrai dans la journée des médecins. Il n'y avait pas vraiment de sujet tabou. C'est-à-dire qu'une des thématiques qu'on avait envie de traiter de la saison 3, on l'a tourné quelques mois après que la nouvelle loi québécoise qui encadre l'aide médicale à mourir est passée. Puis on était vraiment intéressé de voir si un de nos protagonistes serait à l'aise de tourner avec nous la journée où il le ferait pour la première fois. Un médecin qui se fait demander pour la première fois d'aider quelqu'un à mourir finalement. Puis en ayant ça en tête, en fait, il n'y avait pas vraiment de... D'emblée, on ne se fermait pas de porte. On ne peut pas montrer ça. Tout est dans la façon qu'on raconte les choses, puis dans la collaboration qu'on obtient avec les médecins et aussi avec les patients qui sont dans ces histoires-là.
Oui, puis c'était aussi la première fois que le patient mourait.
Oui,
donc
c'était la première. Ouais. Juste par curiosité, dans les coulisses, quand on... C'est juste par question technique, là, je me demande, quand on va à la rencontre d'un patient, quel type de briefing qu'on lui fait? Est-ce qu'on lui explique les questions qu'on va lui poser d'avance ou si on entre dans le vif de sa chambre? Puis...
En fait, avec les patients, comme le point de vue de cette série-là, c'est beaucoup le regard du médecin ou de l'infirmière, les patients, on leur fait pas d'entrevue directement avec eux. T'sais, on leur demande de collaborer dans le but d'illustrer de quelle façon la journée de leur médecin. Donc, l'approche qu'on fait avec eux, évidemment, on les approche avec beaucoup de doigté, on les approche d'avance. Il y a une recherchiste qui travaillait avec nous dont c'était le mandat principal, c'est-à-dire de faire les approches auprès des patients. Puis, on est super sensible à... ils peuvent dire non absolument. Il n'y a pas de tordage de bras qui est fait. On leur expose les choses de la façon la plus limpide possible. Puis on souhaite qu'ils disent oui.
Puis est-ce qu'en général, est-ce que les gens sont réceptifs à partager leur histoire comme ça, partager leur intimité?
Je dirais oui, assez. Plus de la majorité des gens acceptent. Quand on leur présente les choses avec doigté.
Mais on s'entend que si j'entre à l'urgence puis je suis magané, la recherchiste ne vient pas me voir pour discuter avec moi. Là.
L'urgence, c'est un cas particulier où on avait l'autorisation de tourner de loin l'approche ou l'arrivée de certains patients sans qu'on puisse voir leur visage ou déterminer qui ils sont. Jusqu'au moment où on pouvait les approcher ou approcher un membre de leur famille, on tournait de façon très discrète, de façon anonyme en fait, pour pouvoir avoir ce qu'il faut au cas où, oui, ils nous autorisent à raconter leur histoire. Mais c'est le plus loin qu'on allait, c'est-à-dire que on était super respectueux de ne pas dévoiler de détails à ce moment-là pour que les gens puissent être identifiés.
Toi, comment est-ce que ça a changé ta perspective? Comme la prochaine fois que tu vas aller à l'hôpital en tant que patient et non en tant que réalisateur, là, est-ce que tu vas être davantage patient? Est-ce que ça change? Est-ce que tu vas devenir un peu paranoïaque puis commencer à analyser tout ce que les médecins vont faire sur ton dossier?
Ça a beaucoup changé ma façon de voir les choses par rapport à notre système de santé au Québec. Parce que comme la plupart des Québécois, j'avais une vision très côté patient. J'ai pas eu beaucoup affaire au système de santé dans ma vie, heureusement. Je vais toucher du bois, mais comme la plupart des Québécois, j'avais surtout les mauvaises nouvelles en tête, les listes d'attente qui sont longues, le fait qu'il y a certains cas médiatisés où ça s'est mal passé, des erreurs médicales, tout ça. Mais avec la série de Garde 24/7, ce que je trouve important de faire, c'est de montrer le revers de la médaille, en fait, de toutes ces histoires médiatisées qu'on entend beaucoup. Il y en a des héros du quotidien qui se démènent corps et âme pour toujours, en gardant toujours en tête de faire le plus possible pour les patients. Puis je pense que cette facette-là, c'est important de la montrer, c'est important de la voir. Puis c'est une énorme structure, une énorme machine, le système de santé québécois. Donc, c'est normal que parfois, il y ait des situations complexes qui émergent. Ça fait partie de la vie. Puis la santé, soigner des gens, c'est aussi quelque chose de très, 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 très complexe. Fait que, je pense que c'est important de comprendre qu'il y a plusieurs facettes à toute cette machine-là, puis qu'à l'intérieur de ça, il y a des humains extraordinaires. C'est ça qu'on avait le goût de montrer.
Comment on fait pour être aussi anonyme que possible? Parce que juste en studio, là, il y avait 3 caméramans, un gars de son qui me mettait un micro, toi qui me parlais dans l'oreille. Ouais. Là, je me dis, dans une chambre, c'est pas simple.
En tournage documentaire comme sur The Garde 24/7, en fait, on était une toute petite équipe. Là. Bien souvent, il y avait moi, il y avait le caméraman, le directeur photo et le preneur son. Dans les chambres, parfois, moi, j'entrais même pas. Je laissais l'équipe travailler, c'est-à-dire que dans le but de se faire oublier par le protagoniste, médecin ou infirmier, infirmière qu'on suit, et le patient, ben, je laissais entrer l'équipe, seulement caméraman, très discret, 2 personnes dans la salle, puis ce qu'on veut, c'est capter la relation assez intime entre le professionnel de la santé et son patient. Donc, si on entre à 12 dans la chambre d'hôpital, qui sont pas très grandes, les chambres d'hôpitaux québécoises, c'est pas là où une équipe de 20 personnes de tournage peut se placer discrètement. Donc, c'est ça. On fonctionnait de façon extrêmement légère, puis on essayait de se faire le plus discret possible.
Je sais pas si je t'ai biaisé, mais en tout cas, ça a confirmé que j'aimerais mieux me faire soigner par une femme que par un homme. J'avais l'impression que auprès des patients, l'homme était peut-être un petit peu moins en général habile. Il parlait plus fort. Son ton était un petit peu plus théâtral, alors que en général, la femme était plus souriante. J'ai vraiment, je sais pas si c'est mon oreille.
C'est peut-être vrai, ouais, effectivement. J'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement, le côté théâtral, on dirait qu'on le retrouve effectivement plus chez les hommes que chez les femmes dans l'énonciation du diagnostic ou ces choses-là. Mm-hmm. Puis la femme, on dirait qu'elle est un peu plus comme discrète puis intime quand, dans ses propos. Je sais pas si on l'a ressenti.
Vous me faites remarquer quelque chose que j'avais pas. En fait, parce que j'ai remarqué que chacun des protagonistes avait une approche très différente.
Ouais.
Fait que j'ai pas comparé hommes et femmes. Dans le processus.
C'est sur le site de Télé-Québec, en tout cas, si on veut réécouter les épisodes, là, c'est excellent.
Merci beaucoup, Louis Asselin.
Merci à vous deux.
Après la pause, il sera question d'agriculture urbaine et des pensionnats autochtones. Très, très divertissant comme sujets estivaux.
Vous écoutez Aime l'été.
Une très belle première demi-heure pour entamer la semaine avec toi, Luc. Puis on a encore beaucoup d'autres sujets à venir dans la prochaine heure à Aime l'été. Il va notamment y avoir 3 chroniques. On va, comme tu l'as mentionné un petit peu plus tôt, parler des pensionnats autochtones sous l'angle juridique. On va en apprendre plus sur le territoire canadien. Moi, je suis bien content parce que je suis pas un pro de la géographie. Puis également, on va voir la chronique d'Emmanuel Robitaille en fin d'émission. Tout ça dans un instant à Aime la vie. Aime l'été! Aime l'été!
I beg your pardon if I seem dejected from a colony once neglected. Outside child coming, ho, 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 ho. America had the muscle, but you had the mind. They had the bustle, but you had the design. Which one works together like rope from twine? I thought as I walked up this serpentine in you.
London town.
It was the middle of March and I was walking out.
London town.
Didn't know a soul, so I walked all around.
London town.
Feeling like a ship which had run aground in you. Once wanted to be like you. Polar hat, gabardine suit. Now we hip an empire closer to home. Mimic men to the end, you're buried in our bones. We were the margin, you were the metropole. We the fragment, you were the whole. We were the flesh, you were the mind and soul. At least that's how we heard the story told by you.
London town.
It was the middle of March and I was walking around.
London town.
Didn't know a soul, so I walked all around. Ship which had run aground in you.
London town.
London, your sun is set, but
the night has not quite fallen yet. All the stars caught in your galaxy, they flicker like lamps here in your city, in you, London town. Walking the streets, history crashing all around London town. Oh, bells ringing, I can hear the sound through you, London town. I expected, I beg your pardon if I seem dejected. From my colony once neglected, outside child coming home, oh, oh, home. Long time London since your flag came down, long time since we moved along. But now I see just how entwined we were left by the years that we left behind with you,
London town.
It was the middle of March and I was walking out.
Cobotown nous chantait London Town.
Merci, Maurice Bolduc.
Belle voix.
Alice Berthe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de projet en agriculture urbaine pour le Lab en agriculture urbaine, ou corrigez-moi, là, mettez de l'ordre dans mes
idées. Les points sur les i.
Exactement, le laboratoire sur l'agriculture urbaine.
Et, bon, je disais en début d'émission, si... Jadis, moi qui suis vieux, il y avait les violons sous les toits. Maintenant, il y a du pesto sur les toits. Par contre, le lab, c'est un peu particulier puisqu'il y a de l'insertion sociale, il y a certaines recherches que l'on fait pour essayer de découvrir certaines propriétés. Il y a également de l'agriculture en tant que telle. Bon, vous allez me dire c'est tout ça, là, mais c'est quoi?
Exactement. On a du mal parfois à se définir nous-mêmes, mais le laboratoire, dans le fond, il y a plusieurs projets. L'idée, c'est de soutenir l'agriculture urbaine à travers notamment des projets de recherche. Donc, principalement, ça va être ça, afin de développer et de participer au développement de l'agriculture urbaine à Montréal.
C'est un peu comme une espèce d'incubateur d'idées d'agriculture urbaine. Les gens vous soumettent des projets, puis vous les aidez à ce qu'ils poussent.
Oui et non. Oui, on va avoir des projets de recherche de façon autonome, c'est ça, gérés par le lab. Ensuite, il y a aussi des projets qui sont incubés au laboratoire sur l'agriculture urbaine. Mm-hmm. Je pense notamment à Vignanville avec Véronique Lemieux, où elle a installé un projet de vignes sur le toit du laboratoire du Palais des Congrès et maintenant aussi sur le toit de l'ITHQ et de la SAQ. Ça, c'est un projet qui a été incubé par le laboratoire. Aussi, il y a un autre projet qui s'appelle Biquette à Montréal qui a été incubé par le lab. Dans le fond, c'est des jeunes entrepreneurs qui viennent nous voir pour nous demander un petit peu d'aide pour le développement de leur entreprise.
Biquette, ce sont des chèvres?
Exactement, okay. Oui. Et ensuite, dans ce cadre-là, depuis cette année, le lab voulait ouvrir un volet un peu plus social. Avant, on était vraiment plus sur la recherche, dans le fond.
Puis d'où là est venue l'idée de pratiquer, d'utiliser la réinsertion sociale, en fait, pour, de un, mettre l'épaule à la roue et produire éventuellement du pesto, que vous appelez du pesto solidaire et non solitaire. expliquez-moi un peu la genèse de ce projet-là, en fait.
Exactement. Cette année, c'est l'année 1, donc on s'entend que c'est un projet pilote.
Oui.
L'idée, c'était de faire un projet de médiation qui alliait agriculture urbaine et réinsertion sociale. Dans le fond, on travaille avec deux organismes, la Rue des Femmes et la Maison du Père, qui sont des organismes en réinsertion sociale qui travaillent avec des personnes qui ont connu l'itinérance.
Mmh.
Alors, dans ce cadre-là, on leur propose des activités principalement sur le toit du Palais des Congrès, mais parfois, on se balade aussi dans la ville à visiter d'autres projets en agriculture urbaine. Je pense notamment au jardin biodiversité pollinisateur avec Sentier Urbain ou les jardineries avec la pépinière dans Schlaga. Donc, dans le fond, ce projet-là, c'est avec les participants de ces deux organismes, d'aller de la plantation à l'entretien du jardin. Et on va aller jusqu'à des ateliers d'agriculture urbaine aussi et des visites, comme on disait. jusqu'à la transformation, donc la récolte et de la transformation. Donc, la semaine dernière, on a récolté tout le basilic et on a fait la transformation de celui-ci en pesto. Et on a fait une belle collaboration aussi avec le Fairmont, le Reine Elisabeth, le Grand Hôtel sur René Lévesque.
Pour ensuite les vendre.
Qui nous ont ouvert leur cuisine. Donc, okay. On a fait la transformation avec les participants dans leur cuisine et le pesto va être vendu aussi au Fairmont. Fait que c'est une super belle collaboration parce qu'on était contents. Déjà, la recette est signée par le chef du restaurant, Baptiste Pepillon. Donc déjà, on est contents parce qu'on était sûr que ça allait être bon. Puis aussi, dans l'idée de faire un projet local, de faire des partenariats comme ça avec
le communautaire.
C'est ça, c'était important.
Combien il y avait de personnes en tout qui venaient des deux organismes que vous avez mentionnés, qui ont connu la situation d'itinérance, qui ont travaillé sur votre projet?
Alors, il y a trois places pour chaque organisme, donc trois participants qui venaient à chaque fois. Mais après, ça, c'est aussi un des enjeux des programmes qui allient à la réinsertion, c'est que la fidélité, parfois, est un enjeu. Donc,
ben oui,
la régularité, ce sont des personnes aussi qui ont des vies et des passés qui peuvent être compliqués. Donc,
ouais, la discipline, c'est pas nécessaire.
Exactement. Nous, on leur offre une activité dans leur programme de réinsertion sociale. Mais évidemment, c'est moi qui donnais les ateliers. J'allais pas leur courir après s'ils venaient pas. Mais,
ouais, puis des fois aussi, s'ils venaient pas, ça pouvait être positif. Ça pouvait dire que le processus de réinsertion sociale a fonctionné. Puis maintenant, ils ont d'autres occupations.
Exactement, on peut se dire ça aussi. L'idée, c'est pas se dire « Oh, ça a marché ». C'est vraiment de regarder au fur et à mesure du projet, vu que c'était un projet pilote, de comment ça a fonctionné. Est-ce qu'au début, les participants venaient régulièrement, à la fin, pas du tout, ou inversement? Et en fait, on a vu au cours du projet que c'était justement ça qui s'est passé. C'était plutôt, au début, ça a été difficile, et petit à petit, il y a une régularité de plus en plus auprès des participants, puis un vrai engouement par rapport au projet. Donc,
mais du coup, Bon, le but est aussi de faire de la recherche et de dépendre de gens qui ne sont pas nécessairement disciplinés, peut-être altérer un peu certains projets, certains résultats?
Je pense pas, parce que l'idée, c'était vraiment de le faire de façon très ouverte. Donc, on était très ouvert à voir qu'est-ce qui allait se passer, exactement. Puis aussi à modifier le projet en cours de mandat de... On a été aussi faire des visites en fonction de la demande des participants, des intérêts des participants. C'est ça. S'il y en a qui voulaient apprendre à faire pousser particulièrement des tomates, on allait faire ça en fonction de leurs intérêts, etc. Donc,
puis est-ce que ce type de pratique-là pourrait se répandre dans d'autres projets du lab? Est-ce que ça a été un tel succès que non seulement vous aimeriez renouveler l'année prochaine, mais aussi soumettre cette manière de fonctionner-là à d'autres projets dans le laboratoire?
Bonne question, mais je pense que ce serait important de consolider d'abord le projet avant de le développer.
Ouais.
À travers ce projet-là aussi, on a mis en place une table ronde sur le sujet de la réinsertion sociale liée à l'agriculture urbaine.
Ah ouais.
Et une table ronde à laquelle étaient invités tous les organismes qui avaient ça comme mandat. Donc, je pense à Jeune au Travail, Sentier Urbain. Il y a beaucoup d'organismes, la Ferme des Trois Pierres, qui ont déjà ça dans leur mandat, avec chacun leur particularité, évidemment. Mais c'était de se retrouver pour explorer un peu nos pratiques, toujours dans le but de les améliorer.
Mais c'est quand même vraiment intéressant qu'il y ait une table ronde qui a été consacrée sur les liens entre la réinsertion sociale et l'agriculture urbaine. Je suis curieux de connaître c'est quoi les enjeux propres aux liens qui existent entre les deux. Mais l'hypothèse que je vais soumettre, puis vous me la confirmerez, vous m'emmènerez ailleurs, mais est-ce qu'une personne en réinsertion sociale, c'est souvent une personne qui vit une précarité économique et qui, en se prenant en main grâce à l'agriculture urbaine, pourrait subvenir plus facilement à ses besoins éventuellement?
Oui, bonne question. En fait, c'est déjà le terme de réinsertion sociale est parfois difficile à définir et chacun va avoir sa propre définition. Quand on parle de réinsertion, déjà on prend pour acquis que la personne a déjà été insérée dans la société, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, c'est un large sujet, justement, la réinsertion sociale. Et tous les organismes vont avoir leur propre définition. Parfois aussi, un des enjeux qu'on a pu soulever, c'est que les subventions ont leur propre définition de la réinsertion sociale. Donc parfois, c'était les organismes qui devaient se plier à la définition des subventions et non le contraire. Donc c'est sûr que le financement est une grande question.
Ouais.
Ensuite, dans les enjeux, évidemment, oui, la fidélité. des participants dans les projets, mais je parlerai aussi du sujet. Est-ce que vraiment l'agriculture urbaine, c'est tant inclusif comme sujet ? J'ai discuté avec un intervenant qui travaillait à l'accueil Bono, qui avait proposé à ses participants de choisir les plantes qui allaient être plantées en agriculture urbaine. Puis finalement, les gars voulaient des fleurs. Ah. Alors que j'aurais jamais pensé. Alors que oui, nous, on pense à l'agriculture urbaine, on pense aux carottes, aux courgettes, etc. Ouais. Mais finalement, parfois, l'intérêt, c'est d'embellir le milieu plus que d'avoir quelque chose, une alimentation. Donc tout ça, ça reste que c'est des enjeux qui sont propres au projet. C'est ça, l'intérêt.
Kevin, tu te vois en fauteuil roulant sur le toit du Palais des Congrès?
Ben, je ne sais pas si c'est accessible, le Palais des Congrès, sur le toit en termes de fauteuil roulant, mais tu sais, l'agriculture urbaine, moi, par exemple, dans le jardin communautaire, dans ma coopérative, il y a un des terreaux là, qui est surélevé pour qu'une personne en fauteuil roulant puisse pouvoir faire l'agriculture urbaine. Donc, oui, tranquillement, on commence à avoir une espèce d'intersectionnalité des idées pour que ça soit accessible et le plus inclusif possible. Merci beaucoup d'être passé, Alice, en studio pour nous faire découvrir ce projet de Pesto solidaire. On vous invite à en apprendre plus. Puis aussi, ben, si on veut se le procurer, donc c'est à l'Hôtel Fairmont, c'est bien ça?
À l'Hôtel Fairmont. Et si vous voulez découvrir un peu plus profondément le projet, ce jeudi ici, on fait une petite fête de lancement de Récolte de Ville Pesto solidaire. Ça va être aux Jardineries à partir de 18h.
Jardinerie qui est?
Au pied du Parc Olympique dans Hochelaga.
Super, merci beaucoup.
Chez eux pour se faire une partie de quille. Grand Bill avait son bowling dans le bas de la ville, dans son building. Et Grand Bill, la petite fille qui l'aidait, he would treat her like a lady. Ariane était belle, belle comme la mer. Sa seule présence nous aidait à passer l'hiver. Ses yeux étaient clairs, sa voix était douce. À nous servir de la bière sans faire de mousse. Le rêve de ben des gars, conquérir son cœur. Ou pour se consoler, obtenir un peu de ses faveurs. Grand Bill, lui aussi, y aurait fait la cour. On entendait même dire qu'ils avaient peut-être fait l'amour. Grand Bill avait son bowling dans le bas de la ville, dans son building. Grand Bill, la petite fille qui l'aidait, we would treat her like a lady. Puis un beau soir de tournoi, Grand Bill est en pleine victoire, quand y a un petit nouveau qui est entré, l'air un peu mêlé. Quand Ariane lui a demandé s'il voulait quelque chose à boire,
quelque chose à boire,
leurs regards se sont croisés et c'est là que tout a changé. La petite sacrée le camp, deux semaines plus tard était mariée. On n'a plus jamais, jamais, jamais réentendu parler. La place est vidée, Grand Bill s'est pendu. La business a fermé et le building a été vendu. Cette maudite belle histoire que j'ai tendance à oublier, c'est ce qu'on se disait encore hier soir, Ariane pis moi. avait s'envolé dans le bas de la ville, dans son building. Les grandes villes, la petite fille qui l'aidait. Now I treat her like a lady.
Martin Léon, Grand Bill.
On veut du nouveau Martin Léon d'ailleurs. Martin, si tu nous entends, là, t'es dû.
Cri du cœur de Luc Fortin. Moi aussi, je l'aime beaucoup, Martin Léon. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas entendu. Je trouve que Martin Léon, là, c'est le type d'album ou de musicien ou de chanteur qui s'écoute particulièrement bien en voyage. Est-ce que t'es d'accord?
Je pensais que c'était pour dire qu'il s'écoute parler.
Qui s'écoute parler, c'est vraiment pas ça.
C'est le titre d'auteur-compositeur qui s'écoute parler.
Hey, je vais tenter un lien. Je vais tenter un lien. Douteux, la dernière fois que j'ai voyagé, je suis allé en Colombie-Britannique au printemps.
Bravo, ça s'en vient.
Et il y a une nouvelle qui a fait jaser pas mal ces dernières semaines et ces derniers jours, alors qu'on a retiré une statue à l'effigie de John A. Macdonald.
Pourquoi?
J'aurais de la misère à te l'expliquer en détail exactement, mais je sais que ses liens historiques avec les peuples autochtones n'ont pas toujours été au beau fixe et que son héritage...
Alors là, il vient de faire un lien, mesdames, messieurs, là. Qui va être son voyage, la Colombie-Britannique et le sujet à venir.
Et le sujet à venir qui sera porté par notre chroniqueuse juridique, accessoirement notre amie et ma co-animatrice à Sam Regarde, Christine Rousseau. Salut Christine.
Allô.
Bonjour, accessoire.
Christine, qui est bien plus qu'un accessoire, qui est avocate en droit de la personne, qui peut nous dresser un petit portrait de la situation. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, lors de l'annonce de cette nouvelle-là, qu'on allait déboulonner la statue de John A. Macdonald?
Ben, j'avoue, c'est impressionnant, parce que sur le coup, on se dit, bon, c'est quand même un personnage de notre histoire canadienne. Ouais. Mais quand on se dit, ben oui, mais on pourrait peut-être être plus cohérent avec ce qu'on a reconnu de mauvais traitements envers les peuples des Premières Nations. Mm-hmm. Donc, on se dit, OK, ben c'est vrai que peut-être que finalement, on peut essayer de nuancer davantage notre
parce
histoire.
Parce que c'est un peu son idée. C'est-à-dire que c'était sous son
gouvernement qu'on a adopté la loi sur les Indiens.
Ouais.
Ouais, donc, il date déjà de 1876.
C'était quoi cette loi sur les Indiens?
Ah, la loi sur les Indiens. On s'entend que ça fait vraiment 1876 et une chance qu'on est en 2018 aujourd'hui. C'est sûr que je ne suis pas une spécialiste en droit des Autochtones, sauf qu'en tant qu'une question de droits humains, ça m'intéresse énormément. Mm-hmm. Et cet été, j'ai eu la grande chance dans le cadre de mes études en Common Law à l'Université de Sherbrooke, qu'un de nos professeurs applique une des recommandations de la part de la Commission Vérité qui était de dire « Voici, on trouve que, honnêtement, là, toutes les facultés de droit au pays devraient inclure une formation en droit autochtone de manière obligatoire. » Oui, et donc, moi, je suis passée, j'ai fait mes premières études en droit sans cette incorporation-là dans mon cursus, mais j'ai trouvé que c'était vraiment... particulièrement frappant ce qu'on ne connaissait très, très peu. Ben, en fait, on l'a connu davantage, ce scandale-là, cette tragédie-là, à travers la Commission Vérité.
Mais ça, c'est un souhait que ton professeur a émis. C'est pas actuellement comme ça qu'il y a...
C'est pas encore comme ça, mais il s'agissait d'une des recommandations.
Ah ouais.
Oui.
Mais effectivement. Mais quand on parle de droits autochtones, quelle distinction on doit faire avec les autres droits qui régissent, disons, au Canada?
Oui, j'avoue que c'est intéressant parce qu'on se dit, ben voyons, les personnes autochtones doivent avoir accès aux mêmes droits, effectivement. Ouais. Mais il y a tellement de revendications qui sont propres à ce groupe-là, un petit peu comme quand on parle de disability rights, donc le droit des personnes en situation de handicap, ça regroupe en fait les considérations, les grandes questions communes de ces personnes-là. Oui, et donc, justement, donc en 1876, on adopte cette loi-là sous John A. Macdonald, la loi sur les Indiens, et très peu de temps après, on a une des grandes questions, justement, où on se dit on devrait être beaucoup plus sensible à notre histoire, qui est tragique dans ce cas-ci, par rapport aux pensionnats autochtones. Mm-hmm. C'est sûr que, bon, à travers la Commission Vérité, on en a entendu beaucoup parler, on s'est dit, ben il y a eu énormément d'abus, mais honnêtement, il y a eu... Moi, je trouve que en l'étudiant davantage, là, j'ai trouvé que c'était particulièrement frappant, entre autres, le fait que les enfants, souvent, parce qu'au début, ça a été une politique. Et ensuite, ça a été obligatoire. Donc, une quinzaine d'années après le début des pensionnats, c'est devenu quelque chose d'obligatoire. Donc là, automatiquement, un enfant autochtone se devait d'aller à l'école dans les pensionnats autochtones, justement.
Mmh. Parce que, justement, les écoles étaient loin des communautés.
Ben, il y avait certaines communautés qui avaient des écoles, mais okay. Ils étaient probablement très rares, étant donné l'impact que les pensionnats ont eu. Parce que si la communauté avait une école, là, c'était correct. Mais sinon, il fallait absolument... Et là, ça devenait obligatoire et ça pouvait même être de manière forcée. Et même les parents qui auraient aimé, ou plutôt préféré, là, ou simplement refusé le fait que leurs enfants soient obligés de s'en aller très, très loin dans ces pensionnats-là, pouvait être arrêté et même soumis à des peines d'emprisonnement.
Christine, on parle d'abus, de sévices corporels, de décès, on parle d'abus sexuels, on parle de refus de parler ta langue.
Et tout ça correspond à la définition de génocide.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est une des conclusions d'un des juges, à savoir génocide culturel.
Oui, ben en fait, je ne pourrais pas dire que dans la jurisprudence qu'on a présentement, c'est qu'il y a eu des poursuites au niveau civil et quelques poursuites en matière criminelle. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on est allé sous les différentes obligations en matière civile où on a dit, voici le gouvernement, autant que les églises, ben pas autant, là, en fait, et les églises, c'est plutôt ça que je devrais dire, sont responsables parce qu'ils ont été négligents. Et là, c'est comme ça, c'est sous cet angle-là qu'on est allé chercher. Sauf que quand on le regarde d'un angle de droit international, c'est là où on va pouvoir dire qu'effectivement, au Canada, on a eu une situation de génocide envers les personnes autochtones.
Maintenant, ça change quoi? Une fois qu'on a compris que M. Trudeau a dit encore en fin de semaine que, bon, je peux pas le citer, là, mais disons que le comportement était déplorable à l'égard des Premières Nations... Ouais. Ça change quoi une fois que c'est dit?
Ben c'est sûr que...
Est-ce qu'il y a des pas qui ont été faits, des décisions qui ont été prises?
Peut-être juste avant Ben, en fait, je te dirais que de manière générale, même au niveau du système judiciaire, on s'est rendu compte, comme il y a des critiques, par exemple, féministes en droit, où on va regarder toute la jurisprudence avec un regard d'une critique féministe, où on va se dire... attendez un petit peu, là. Je pense qu'on continue de perpétuer certains préjugés envers les femmes. Bien, on a maintenant des critiques aussi par rapport aux personnes autochtones, où on se dit, attendez un petit peu, là, est-ce que notre système judiciaire ne contribue pas, lui aussi, à une discrimination par rapport aux personnes autochtones, sous différents angles? Mm-hmm. Mais par rapport aux pensionnats autochtones, si je peux me permettre juste une petite parenthèse, moi, ce qui m'a troublée en lisant la jurisprudence, c'est de voir que, de un, le gouvernement, à ce moment-là, puis là, c'est sûr qu'on est pré-commission vérité là, dans tout ce que je dis, mais c'est qu'on a dit... on a utilisé une défense qui était extrêmement rigoureuse. Donc, on était très, très loin là, en défense. Là. On était très, très loin de prendre en considération, voici, oui, ben, peut-être qu'on pourrait y aller un peu plus mollo et on pourrait peut-être reconnaître davantage. Ouais. Non.
C'était pas conciliant du tout.
Non. Les avocats qui représentaient le gouvernement, ils sont pas allés, disons, avec le dos de la cuillère. Mmh. Ils ont invoqué tous les moyens de défense inimaginables. Donc, d'un certain point de vue, c'est compréhensible. Bon, on va défendre le mieux possible notre client, sauf que on est même jusqu'à aller, et on va même le voir dans la jurisprudence, on est jusqu'à aller invoquer une théorie qui s'appelle le crumbling score, où une fois qu'on trouve la personne responsable, on va dire, ouais, mais si jamais il y avait eu un facteur qui faisait en sorte que ça aurait pu arriver quand même, par exemple, le fait que les personnes ont été victimes d'abus sexuels, on sait que parfois... une personne abusée peut devenir abuseur par la suite. Ben, on est même jusqu'à aller invoquer, ben voici, parce que sans dire que la problématique était de génération en génération, ben ça aurait pu arriver pareil, étant donné que la situation était tellement...
Généralisée.
Alors que, ben voyons donc, on peut pas invoquer quelque chose comme ça dans une situation où ça a été aussi systématique dans plusieurs... au cours de plusieurs générations.
Il nous reste moins de 2 minutes. Suite à commission-là, il y a 94 recommandations qui ont été émises. Il y a des excuses qui ont été faites par le gouvernement.
Oui. Ben, en fait, les excuses, justement, on se dit, est-ce qu'on peut vraiment croire à la sincérité des excuses quand, au final, après plusieurs poursuites judiciaires qui ont eu pour mérite, parce qu'il y a eu quand même justement plusieurs points négatifs, pour mérite de forcer le gouvernement à prendre cette question-là au sérieux. Est-ce qu'on peut vraiment, après coup, après une longue bataille, dire ben on va considérer ces excuses-là comme sincères?
Ouais.
Ben c'est là où on se dit c'est juste le temps qui peut nous le dire. Et maintenant, présentement, en 2018, quand on voit le manque d'investissement qu'il y a en éducation et pour essayer de traiter au mieux possible les séquelles que les communautés vivent encore, ben honnêtement, les excuses, ça s'ancre pas suffisamment dans la réalité pour vraiment y croire.
C'est sûr que, bon, beaucoup de choses ont été dites qui ont rassuré beaucoup de gens au début du mandat du gouvernement présent. Maintenant, il faut voir jusqu'où ça va aller. Peut-être qu'il y a des gens qui pensaient que ça irait plus vite. On a de la difficulté avec certaines commissions, dont celle sur les droits des femmes. Mais, en tout cas, on verra bien. D'ailleurs, Kevin, si jamais on a le temps d'ici la fin de l'émission, je suis curieux de savoir journée fériée pour les personnes handicapées.
Ah!
Parce que on en parle beaucoup côté Première Nation. Merci, Christine.
Merci beaucoup, Christine.
Petite pause, ensuite, on parle territoire.
Vous écoutez Aime l'été.
C'est excellent de savoir que Serge Bradette va nous parler de territoire parce que j'avoue que ce sont les angles canadiens que je connais le moins et Kevin semble dire que tu t'y connaissais peu toi aussi.
Très peu. J'aurais bien de la difficulté à nommer les grandes villes de chacun des territoires.
Et monsieur, est-ce qu'il y a des grandes villes?
Les plus grandes villes oui, de okay. chaque territoire.
Okay. C'est une des questions qu'on posera à Serge. On va également se... Ben, en fait, on va épier une conversation qu'Emmanuel a eue avec des gens qui vivent sur un bateau. Vivent peut-être, bon, 6 mois, 1 an, 2 mois, enfin bref, on va savoir tout ça d'ici la fin de l'émission.
C'est un garçon énigmatique, un furet qui file entre les doigts. L'avez-vous vu passer par ici et repasser par là d'une seule fois? Petit tour puis s'en va. Je ne sais pas s'il est sympathique. Par moments, on dirait presque un chat. Jamais vous ne l'entendez venir. Et soudain, il est là, qui sourit, ne parle pas. Trois petits tours et s'en va. Seul dans forcer sa porte, ne pas jouer au plus fort, le laisser venir à soi. Trois petits tours et voilà. Seul dans mon bunker, j'entends l'appel de son âme, comme une douleur, une alarme, un cri du cœur. Trois petits tours.
trois petits tours par Françoise Hardy.
Françoise Hardy. Serge Bredet, bonjour.
Bonjour, bonjour vous deux.
C'est de votre époque, ça, Françoise Hardy?
Oui.
C'est de la mienne aussi.
Oui, Madame Hardy. Très connue. Très appréciée à mon époque, dans mes jeunes années.
Ben, tout à fait.
Alors...
Je dis qu'on parlait de deux des trois territoires.
Oui.
Et vous omettez le Yukon que vous nous gardez pour la semaine prochaine.
Oui, parce que c'est assez documenté, le Yukon. Mm. Ben, eux aussi, les deux, mais je ne pouvais pas passer les trois en même temps. Il n'y avait pas assez de temps.
Tant mieux.
Ça aurait été une course contre la montre. Mm-hmm. En premier, je vais tester vos connaissances. Comme vous avez avoué vous autres-mêmes.
Moi, je vais aller aux toilettes, j'en reviens dans 15 minutes.
Et ne vous en faites pas, j'étais pas plus savant que vous autres.
Bon, leçon d'humilité.
Ouais. Si on part en allant de l'est vers l'ouest, là, au-dessus des provinces l'ouest, là, si on part de l'est vers l'ouest, mm-hmm. c'est quel ordre? Alors, vous avez, qu'est-ce qui vient en premier? C'est les territoires du nord-ouest?
Non, le Yukon ou le Nunavut?
Nunavut,
ouais. Excellent.
Après ça, le TNO, puis le Yukon.
Ben, écoute, ah oui, bon. OK. Ben, vous êtes
oui.
bon.
Ah ben là, moi, j'aurais peut-être inversé les deux.
Ouais.
Juste à cause du libellé nord-ouest, là, j'aurais cru que ça aurait été le plus à l'ouest. Mm-hmm.
On a beaucoup entendu parler du Yukon à cause de la ruée vers l'or dans le passé. Ouais. Mais c'est ça. Alors, donc, le Nunavut, vous savez que c'est très grand, hein? C'est vraiment, j'ai été fasciné.
Mais ce serait plus grand. T'imagines, avant, ça faisait partie du territoire du Nord-Ouest.
Oui.
Mm-hmm. Alors, c'était immense.
C'était gigantesque. Là, le Nunavut, on parle de la superficie de l'Inde actuellement.
Wow.
Ouais. On parle de 2 093 190 km².
OK.
C'est grand. Et il y a même, que je ne savais pas non plus avant hier, quand j'ai commencé à travailler, c'est que en haut complètement du Nunavut, vous êtes dans l'Arctique, mm-hmm. et comme le globe terrestre, c'est rond, ben ça, il y a une frontière maritime avec le Groenland.
Mais maritime, oui.
Maritime, pas terrestre, non, mais maritime. Maritime, oui. Alors, c'est le troisième territoire canadien par ordre de création, et sa capitale, Iqaluit, puis il y a 35 994 habitants.
Ce qui n'est pas beaucoup comparé. Compte tenu du 2 millions, je ne sais pas combien de kilomètres carrés.
Saint-Georges-de-Beauce.
Oui.
Très exactement. 35 000 habitants à Saint-Georges. Ouais, ouais. On vous salue.
Oui. C'est un des endroits les moins peuplés au monde, évidemment, ouais. quand on regarde ça. Là. Vous avez la densité de la population, on parle de 0,017 wow. habitants.
Si jamais tu nous écoutes, Nunavut, envoie-nous un signe de vie. Vraiment, je serais ému d'avoir un écho du Nunavut.
Oui. Ce serait agréable. Ouais, ouais. Ouais. Le Nunavut, Iqaluit, la capitale anciennement, c'était Frobisher Bay.
OK.
Ça, on entendait ça souvent aux nouvelles quand tu parlais de la météo, tout ça. Là. Alors, Frobisher Bay.
Mais c'est la même ville.
Absolument. C'est ça. Parce qu'ils ont amérindianisé les noms. Comme ici, vous aviez au Québec.
Ouais, ça doit être pas mal Inuit, même.
Plus qu'Amérindien
dans ce cas-ci. Ben,
comme ici, au Québec, on parlait de Caughnawaga. Hein, mm-hmm. Déjà, maintenant, c'est Caughnawaga.
Ouais. Mm-hmm.
Alors, c'est très correct aussi. Là, c'est leur... environ 40 % des. Comment s'appellent les citoyens de Nunavut? Bonne question. Ouais. Nunavummiut.
OK.
Oui. Autant pour les hommes que les femmes?
Oui. Ah, ouais. Ben, on ne fait pas la différence ici, alors donc ça doit être ça.
Ouais.
Et 40 % ont moins de 15 ans.
Wow!
Okay. Imaginez, c'est... Quand je vois un chiffre 40 %, je me dis, ben, quasiment 50 % quasiment une personne sur deux.
Ben, c'est qu'on quitte pour aller étudier, j'imagine, en bas, puis on ne remonte pas.
Ben oui, ben je ne sais pas s'ils reviennent.
C'est de la faute d'Elisapi.
De?
D'Elisapi Aizen.
Ah oui? Il y a des problèmes sociaux, évidemment, très, très importants. Hein. On entend parler souvent de ça dans les nouvelles, le chômage, pénurie de logement. Malheureusement, délinquance, alcoolisme et le taux de suicide aussi. C'est triste, mais c'est la réalité. Par contre, le chômage diminue et est passé de 16 à 12 dans les dernières années. Alors, c'est peut-être une bonne nouvelle. Les langues officielles sont les Nuktitut. L'Inuinaktun, l'anglais et le français.
OK.
Ouais. Et c'est un... politiquement, comment ça fonctionne? Vous avez un commissaire au Nunavut qui est l'équivalent du lieutenant-gouverneur ici au Québec. Et l'Assemblée législative a 22 députés et quelque chose dont on rêve partout dans le monde, pas de parti politique, on fonctionne par consensus.
Ah oh ouais,
ça t'imagines ça, toi? Vous imaginez ça, le rêve, le rêve.
Mais
le
si
rêve.
Ça fonctionne, ouais. C'est ça la question. Est-ce que ça fonctionne?
Ben ça fonctionne parce
ou qu'on a des débats interminables. Tu sais, je suis curieux de voir.
Ben, on n'entend jamais beaucoup de problèmes parlementaires là-bas. Je me dis que ça doit fonctionner.
On n'entend pas parler des questions politiques internes beaucoup, effectivement. Quand on parle des territoires, c'est plus comme une question fédérale, mais à l'interne, on n'entend pas parler.
Écoutez, 39 000 habitants, ils n'ont pas les problèmes que une province de 6 millions. Ben oui, c'est
beaucoup quand même, 22 députés. Ben, mais je comprends que c'est pour représenter l'immensité du territoire. Là.
Oui, oui, oui. Alors, allons maintenant au territoire du Nord-Ouest. Bon, évidemment, comme l'a dit tout à l'heure, c'était...
Yellowknife?
Oui, Yellowknife. Okay. Mais c'était avec la Nunavut avant. Alors, c'est séparé maintenant.
Ouais.
Une population quand même plus importante, un peu plus, 41 786 habitants. Donc, c'est... Et on appelle le territoire du Nord-Ouest, c'est le français, en anglais, le Northerners.
OK.
Northerners. le Nunavut, j'ai oublié de vous dire, ça signifie « notre pays ».
Ah, oh, c'est beau.
Oui, c'est joli, Territoire du Nord-Ouest, savez-vous pourquoi on l'appelle? Parce que c'est le territoire du Nord-Ouest. C'est le territoire du Nord-Ouest, aussi simple que ça.
Et 41 000 personnes, est-ce que c'est pour Yellowknife ou c'est pour l'ensemble?
Non, c'est pour l'ensemble.
Pour l'ensemble, OK.
Oui.
C'est encore moins peuplé que j'aurais cru quand même.
Écoute, c'est haut.
Je comprends.
C'est vraiment ces gens-là, probablement le plus possible vers le sud, tu sais, ou... les langues officielles, bon, anglais, français, il y a deux langues, là, il y en a beaucoup, il y en a une dizaine. Mm-hmm. La langue esclave du Nord, puis l'autre esclave du Sud.
OK.
Je sais pas d'où ça vient, là, je trouvais ça intriguant, comme...
Ben, il y a le lac à l'esclave qui est un des grands lacs dans ce coin-là. Ouais.
Alors... Probablement que c'est un dialecte à cette région-là, à ce coin-là. Ouais. Le climat, c'est très, très dur. Là. L'hiver, on parle le jour moins 20 centigrades et la nuit à moins 40. Mm-hmm. Et c'est pas chaud du tout. Les territoires du Nord-Ouest auraient moins de pouvoir qu'une province, étant donné leur situation. Donc, ils n'ont pas les mêmes compétences.
Mais j'imagine que tous les territoires ont la même juridiction, le même genre de pouvoir, non?
Oui, si on veut, mais sauf que c'est plus limité. Il y a des pouvoirs dont ils n'ont pas besoin et qui sont dévolus au fédéral à ce moment-là, j'imagine. Oui. Encore là, ça fonctionne par consensus. Il y a 19 circonscriptions électorales, puis on fonctionne par consensus.
Okay. Ouais.
Alors, vous avez des débats, puis à un moment donné, on dit, bon, ben c'est correct, on s'entend. Les Canadiens... l'ethnique dans le... Alors, Canadiens, Européens, 40%. Première Nation, 31%. Métis, 8%. Inuit, 9%. Les Inconnus, 1,56%. L'industrie minière...
C'est quand même beaucoup appelons-les les Caucasiens.
Oui, absolument.
Plus
que
je pensais.
Oui, moi aussi.
Serge, je suis désolé, on n'a plus de temps.
D'accord.
Et en plus, comme Emmanuel est déjà préenregistré, on peut même pas être...
Pas lui voler du temps.
Ben, j'avais fini. Il me restait juste de dire qu'ils avaient des ressources en or, diamant, gaz naturel, pétrole.
Et la semaine prochaine, le Yukon.
Le Yukon, Yukon.
Merci beaucoup.
Merci, Serge.
Quand on n'avait pas le temps, 52 semaines par année à se faire charrier, à se brûler le pelage, à coup de soleil, sa plage, une ceinture de lutte, de la honte, on est en pleine chute. Et puis on monte comme un saumon dans le courant, jusqu'à ce que le plus fort t'attrape, il sourit en mangeant, il s'en fait, puis il sape. Et on n'est pas à plaindre, mais des fois on s'ennuie du patate, steak, les mains.
laver puis de s'endormir dans le bain. De tout retrouver ce qu'on a perdu en chemin. En pleine turbulence où on peut pas atterrir. Des langues, des blanches, je tenais à clipper. Frippe de frippe jusqu'au lendemain d'hier. Se nourrir au sac de chips puis on reste en pierre. Mais on n'est pas à plaindre. Mais des fois on s'ennuie du patate steak.
La formation Canaille, Margarita.
Tu t'en vas, Kevin Breton.
Ah ouais, mais je termine en beauté. J'avais prédit la chanson. Ben, pas prédit,
c'est
mais
vrai,
je l'avais déjà.
C'est vrai, tu l'avais déjà.
Si je l'avais prédit, ça aurait été doublement impressionnant. Oui, hey, Luc, je vais me faire couper les cheveux.
Ah.
Je sais que c'est de la radio, mais il faut quand même que je sois présentable.
Je comprends, je l'ai fait, moi, avant de venir vendredi.
Pour te mettre
je savais Christine,
pour moi.
Oui, je savais Christine venait, que
comprends.
Toi, tu venais, qu'Alice venait.
Faut se mettre beau.
Serge, c'est pas grave.
Tes amis aussi du Sport Sans Limite étaient là.
C'est vrai.
Faut pas les oublier. On a une super belle émission.
Oui.
J'ai bien hâte à jeudi prochain, Luc, je vais te parler de Tokyo 2020.
Oh, OK, parce qu'on sera là le 23.
Ensemble, oui.
Moi, je serai là le 22 avec Emmanuel. Je sais pas qui est là demain.
Je sais pas. Mais le 23, toi puis moi, ça va être à 2 ans, jour pour jour, avant le début des Jeux de Tokyo. Ça commence le 25 août 2020. Ben, pas tout à fait 2 ans, là, mais tu me pardonneras 2 jours d'écart.
Bon, ben, va te faire couper les cheveux.
Ouais.
Puis nous, ben, on va continuer. Je suis vraiment curieux. C'est Rick et Stevie... Est-ce qu'ils vivent sur un bateau? Est-ce qu'ils voyagent longtemps sur un bateau? Est-ce que... En fait, Emmanuel leur a causé.
Merci Alain, merci Luc. Oui, pour cette chronique « Vivre différemment » cette semaine, j'ai 2 personnes très inspirantes et inspirées qui choisissent de laisser le confort, la routine, les habitudes, le normatif pour vivre leur vie différemment, sans domicile fixe, parce que leur domicile bouge. Au gré des vagues, c'est sur un bateau que Céric habite oui, depuis près de 3 ans et il nous fait le plaisir de revenir à Canalem pour nous parler de son expérience, cette fois accompagné de son copain Stevie qui, lui, est en transition pour faire le saut en quittant ses fonctions de gestionnaire des contrats d'épargne et d'assurance vie. De passage au Québec, directement de Paris, les voici en studio avec nous. Merci d'être venu, les gars.
Ça fait grand plaisir. Merci, Annie.
Céric, tel que mentionné, tu es à ton 2e passage à l'émission, au canal, à la radio, oui. En fait, dans une autre émission, tu étais venu à Aime la vie, on est à Aime l'été présentement, où tu étais venu nous parler de cette optique de vie qu'il faut sortir de sa tête, suivre son cœur. Et aujourd'hui, on entre dans un aspect très concret de ce que vivre sur un bateau implique, que ce que vous avez choisi maintenant tous les deux, parce que là, tu n'es plus seul, parce que ton projet s'appelle « One Guy, One Goal ». One Life, qui c'était
ouais,
aventures.
C'est ça, mais il va falloir biffer puis marquer Two Guys maintenant.
Two Guys, One Goal, One Life. Est-ce que ça, on va en venir là?
Ben c'est ça en fait là, un peu notre objectif finalement.
Absolument.
Oui.
C'est un petit retour en arrière d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, un retour en arrière.
Parce qu'on se remet en contexte. Céric, tu faisais partie ici. Bon, tu étais dans le domaine télévisuel ici. Tu avais gravi les échelons. Tu avais quand même une vie qui était extrêmement confortable où tu avais beaucoup d'ambition, tu as tout laissé derrière pour aller faire le One Guy, One Goal, One Life, qui est de vivre sur un voilier 365 jours par année. Qu'est-ce que ça implique, vivre sur un bateau? La routine, une journée type, là.
Hey, une journée type, mon Dieu, je te dirais, c'est drôle parce qu'il n'y a pas tant de routine que ça sur un bateau. Hein? Chaque journée est différente dans le sens que il y a beaucoup de choses à faire sur un bateau. Alors, je dirais, tout de suite d'emblée, je dirais la bémol d'un bateau, parce que tout le monde pense que c'est donc extraordinaire.
On se couche sur la coque et
oui,
on se fait bronzer.
Exactement, on ne fait que ça et puis il n'y a rien d'autre. C'est beaucoup de maintenance, énormément de maintenance. Ça demande beaucoup, beaucoup. Puis comme ça reste une maison, comme tu l'as dit, sur l'eau,
oui.
Tu ne peux pas te permettre, il faut que ça soit... Question sécuritaire, il faut que ça soit toujours parfait. C'est bête à dire, hein, mais c'est ça. Donc, c'est énormément de maintenance, beaucoup d'entretien. les éléments aussi, l'eau, l'air salin détruit tout quasiment. C'est horrible pour ça.
Mais c'est super intéressant ce que tu nommes, Céric, et on va voir avec Stevie, est-ce qu'il faut une connaissance préalable des éléments, de la météo? Est-ce qu'il faut des connaissances de base de ça où on apprend sur le tas, comme on dit? Parce que moi, sincèrement, si tu me demandes d'agir en fonction des éléments et de l'eau saline et du vent, je terminais, je coule.
Mais je savais pas, en fait, je l'ai appris à vitesse grand V, tu sais, j'ai pas eu le choix, tu sais, d'apprendre rapidement, mais tu réalises que tu vas au gré de Dame Nature, en fait, c'est elle qui décide, hein. C'est ça. C'est elle qui décide, c'est elle qui a le dernier mot.
Mais tu travailles beaucoup avec ton intuition aussi. Il en faut de l'intuition pour faire ça.
Oui, il en faut beaucoup. Et d'ailleurs, si on va contre la nature, je pense qu'on s'en souvient, on le fait pas deux fois.
Mais
c'est un exemple de ça?
C'est un exemple.
Nous, on n'a pas eu vraiment de conditions de navigation, mais c'est plus qu'il m'a raconté des expériences qu'il avait vécues auparavant, où effectivement, on peut avoir des conditions de navigation qui sont épouvantables.
En fait, c'est que je m'aperçois que surtout au début, j'étais très naïf, hein, tu sais, je connaissais rien, fait que tu... Puis c'est bien de la naïveté, il faut en avoir.
Oh, moi, elle m'a servi énormément.
Ça prend beaucoup de naïveté. Ouais. Puis je te dirais
un peu
que...
d'insouciance, oui, puis beaucoup de foi.
L'insouciance, puis de dire, bon, ben être structuré, évidemment, ça prend beaucoup de structure sur un bateau. Faut être organisé, très organisé, oui. Minutieux. Et
je
puis,
le confirme.
Oui, effectivement. Ben oui, c'est vivre je sais pas, en fait, toi, tu as eu une expérience de 3 semaines.
Qu'est-ce qui t'a poppé,
qu'est-ce qui t'a marqué le plus?
Ben effectivement, il y a beaucoup de gestion de maintenance, il faut gérer l'eau.
On s'attend pas à ça, là.
Oui, on s'attend pas forcément à ça. Mais bon, je me doutais aussi que ce serait pas que les vacances. J'y allais en sachant que bon, ce serait pas que ça. Aussi, chaque chose a sa place sur le bateau, ça, je l'ai compris assez vite. Non, mais c'est vrai, c'est des petits détails.
Stevie, c'est parce que ça va là.
On se rend compte de l'incidence que ça peut avoir parce que moi, je me suis blessé au pied parce qu'une chose n'était pas à sa place. C'est des tout petits détails comme ça qui paraissent anodins.
Ça a des conséquences directes quand même. Là.
Oui, mais c'est vrai, c'est intéressant. Je ne me souvenais plus de ça, mais c'est vrai. Puis, écoute, ça paraît... Nono, là, bon, c'est un petit accrochage sur le bateau avec son pied... deux fois d'ailleurs, hein, même deux fois. T'sais, à un moment donné, on a compris de dire, OK, ben ça, il faut que ça soit toujours comme ça. Mais ben, mine de rien, là, t'sais, juste s'accrocher pour le pied, ben t'es pris avec ça. Là.
Oui, t'es blessé sur un bateau en haute mer.
Plusieurs jours.
Mm-hmm. Tu veux pas ça. Tu veux pas être blessé sur un bateau.
À deux, l'autre peut pallier aux incapacités de l'autre, mais seul.
Ouais,
ça devient très
plus embêtant, oui.
Ben ça, je l'ai déjà dit à Stevie. Je te dirais qu'avant que je rencontre Stevie, j'étais très, très, très fatigué à la fin de ça. Seul, tout géré, toujours, continuellement, ça, j'étais vraiment rendu fatigué de ça.
Parlant de gestion, on va parler d'argent. Parce que je sais que vous vous faites poser la question souvent, comment vous faites, les gars, pour gagner votre vie? Et je le sais que, Céric, tu m'en as parlé, ça te tanne, ça. Ce que tu dis d'emblée, tu dis, garde, j'en ai jamais manqué, puis ça va venir. Finalement, ce mode de vie-là, c'est un gage de foi financière, de foi sur la météo, de foi sur notre intuition de faire la bonne chose au bon moment. Y a-tu d'autres choses que ça qu'il faut?
Non, mais effectivement.
Non, mais tu sais.
Mais c'est sûr que ça n'en prend de l'argent, tu sais, parce que ça coûte cher entretenir un bateau. En tout cas, il faut que tu fasses beaucoup de choses par toi-même. Ça. S'il y a des gens qui pensent qui envisagent ça, puis qu'ils disent moi je suis pas manuel, moi j'aime pas faire des choses, j'aime pas réparer, j'aime pas maintenir, tout ça. Ben, tu as deux solutions. Soit que tu arrêtes tout de suite ton projet de bateau, ou bien tu as un budget illimité. Là. Tu sais, là, c'est comme tu as la totale, là, puis ça veut dire que tu t'en fous de l'argent. Là,
donc, quelque chose à savoir pour les gens qui envisageraient de le faire, comme Stevie, tu vas y aller.
Voilà, moi, j'y suis pas encore, mais...
Mais en octobre, c'est prévu et tu sais dans quoi tu t'embarques parce que tu as eu un capitaine à tes côtés et tu as eu aussi 3 semaines d'expérience. Il faut être manuel, il faut s'attendre à travailler fort du matin au soir parce qu'on devient un peu les gardes de ce bateau-là. Le bateau devient notre ami aussi. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant quand on en avait parlé. Vous développez une relation.
Avec le bateau, tout à fait. Oui, on y parle.
Et Stevie,
Oui, oui, qu'est-ce que tu... je le confirme, c'est vrai.
Oui, que... et qu'est-ce que tu appréhendes ou de quoi as-tu le plus hâte de ton prochain mode de vie qui s'en vient?
Bah, hâte de plus avoir le... enfin, profiter vraiment pleinement des moments sans se dire bah, ça va à une fin, il va falloir retourner au travail. Donc ça, déjà, ce sera déjà une bonne chose. Ce que j'appréhende le plus, c'est peut-être le manque de la famille.
Mais parce que la vie sociale, effectivement, c'est quelque chose...
Ça compte un peu.
C'est moins stable, on va se le dire, mais comme on vient de le dire, au moins le bateau devient un ami. Les garçons, merci infiniment d'être venus nous parler de ces choses dont on ne se doute pas. Et je rappelle aux gens que le One Guy, One Goal, One Life, il y a une page Facebook où on peut aller suivre vos aventures. Vous nous gardez à l'affût.
Oui, puis il va y avoir des nouvelles aventures là, qui commencent.
Prochainement.
Oui, prochainement, exact.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir et beaucoup de liberté également. Merci.
Et du bonheur.
Surtout.
Oui, beaucoup de liberté. Et Stevie qui termine en disant surtout, et je pense que c'est probablement la motivation première, cette liberté-là de faire ce que l'on veut avec le temps. On le sait d'ailleurs, pour avoir causé avec certaines personnes handicapées qui font de la voile ou du kayak, on me dit que c'est extraordinaire parce que autant qu'une personne dite valide, sur l'eau, il n'y a pas de limite. Et c'est un peu vrai. Dans ce cas-ci, j'imagine que la limite, c'est ce que nous impose la température. Mais une fois que tu es parti, tu ne peux pas retourner en disant « Bon, OK, il fait pas beau, on va retourner puis on reviendra demain. » Alors, liberté, plus de montre, plus de cadran, mais également énormément de limites. Faut que tu prévoies ton épicerie d'avance. Chaque chose est comptée. C'est drôle, à peu près à chaque fois que Emmanuel interviewe quelqu'un, je me dis en écoutant, « Ah, c'est pas pour moi, ça. » C'est vraiment pas pour moi. Par contre, effectivement, qu'un petit dimanche après-midi, au soleil, waouh, hein, pour en avoir fait un petit peu de voile dans une autre époque, là, quand ça gîte un peu, c'est magnifique. Kevin le disait, lui qui est parti se faire couper les cheveux, c'est vrai que ça a été une émission agréable. Aime l'été qui est dans son arrière, avant-dernière semaine. Merci beaucoup à Maurice Bolduc à la régie. Merci Anne-Laure Janson, Catherine Bourderon à la recherche. Enfin bref. Celle qui a coordonné tout ça, c'est Clotilde Seille. Coordination, tente-t-il de dire. Et, ben oui, moi, je serai là avec Emmanuel mercredi. Je serai là avec Kevin jeudi. Il y aura des gens qui seront là demain. Je souhaite une bonne fin de lundi 20 août. Et à bientôt.